Puis, tout heureux et pleurant de joie, les nôtres allèrent adorer le sépulcre de notre Sauveur Jésus et s'acquittèrent de leurs dettes envers lui. Le matin suivant, les nôtres escaladèrent le toit du temple, attaquèrent les Sarrasins, hommes et femmes, et ayant tiré l'épée, les décapitèrent. Quelques-uns se jetèrent du haut du temple. À cette vue, Tancrède fut rempli d'indignation. Extrait d'une chronique anonyme de la première croisade en 1099.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
De la fin du XIe siècle à la fin du XIIIe, la chrétienté a entrepris 8 croisades. Je vous propose aujourd'hui non pas de reprendre les croisades les unes après les autres, mais d'essayer de tirer un bilan de ces 2 siècles d'histoire qui ont pesé à la fois sur la mémoire des chrétiens, mais aussi sur la mémoire des musulmans, voire des juifs. Oui, quel est donc le bilan des 8 croisades ? D'abord, il est indéniable qu'il y a eu, en particulier pour la première croisade, ce qu'on peut appeler un élan populaire. À la suite de l'appel de Clermont du pape Urbain II en 1096, il y a eu effectivement des mouvements de foule, on a pu parler d'une croisade des pauvres, mais si l'on en croit le chroniqueur Odéric Vital, moine normand qui a écrit une histoire ecclésiastique en 1135, cette volonté d'aller vers la croisade, d'aller vers Jérusalem, a touché les pauvres et les riches. Je le cite. « Ce fut chez les riches et les pauvres, chez les femmes, chez les moines et chez les clercs, chez les citadins et les paysans, une prodigieuse volonté d'aller à Jérusalem ou d'aider ceux qui y allaient. Les maris décidaient de laisser à la maison leur chère épouse, mais celles-ci, gémissantes, voulaient suivre leurs hommes dans le pèlerinage en abandonnant leur progéniture avec toute leur richesse. Des domaines qui jusqu'alors étaient payés cher se vendaient maintenant à vil prix et on achetait des armes pour que la vengeance divine pût s'exercer sur les amis d'Allah. » Qu'il y ait eu effectivement un élan, c'est sans doute le plus probable. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'au fur et à mesure des croisades, il y a eu de moins en moins d'élan populaire pour qu'il y ait plutôt un élan politique, car les croisades du XIIIe siècle sont affaires de chevaliers, de rois, de princes. Et finalement, le côté populaire a sans doute progressivement disparu des croisades. Autre élément qu'il faut souligner, c'est que, finalement, les croisades forment un échec militaire et politique. Il est vrai que le 15 juillet 1099, Jérusalem a été prise aux musulmans et que, jusqu'en 1187, elle est la capitale du royaume de Jérusalem, du royaume chrétien de Jérusalem. À côté de ce royaume furent également créés d'autres États latins d'Orient, le comté de Tripoli, le comté d'Antioche et d'Esdès, et également un royaume arménien. Mais finalement, avec la prise de Jérusalem par Saladin en 1187, eh bien, progressivement, les États latins d'Orient disparurent. Le krach des chevaliers, forteresse théoriquement imprenable, tombe en 1271, et le dernier bastion chrétien latin en Orient, Saint-Jean d'Acre, tombe à son tour en 1291. Donc, à la fin du XIIIe siècle, il n'y a plus de présence politique latine en Orient. D'autre part, les croisades ont sans doute creusé un fossé entre la chrétienté latine et la chrétienté grecque. En effet, on avait eu l'occasion d'ailleurs d'en parler lors d'une de nos chroniques, il y avait eu séparation progressive, marquée ensuite en 1054 par une séparation nette et définitive entre l'Église d'Orient grecque et l'Église de Rome. Mais les rapports, qui étaient déjà donc difficiles, vont devenir exécrables à la suite du sac de Constantinople en 1204. En effet, les croisés latins, conseillés par la République de Venise, ont fait un détour par Constantinople, se sont emparés de la ville et l'ont saccagée. Et les chroniques grecques en particulier insistent sur la sauvagerie des chevaliers latins qui se sont emparés de la capitale de l'Empire byzantin. Encore aujourd'hui, la mémoire du saccage de Constantinople marque les esprits du monde orthodoxe. Donc, les croisades n'ont pas réunifié la chrétienté, mais ont participé à un fossé de plus en plus important entre la chrétienté latine et la chrétienté grecque. Par contre, il y a eu des échanges culturels. Les écrits de Platon, d'Aristote ont commencé finalement à arriver vers l'Occident. Il y a eu des échanges, effectivement, culturels. On a surtout réfléchi sur l'autre. Parce que finalement, il y a eu, avec la présence des États latins d'Orient, ce qu'on peut appeler une dimitude inversée. La dimitude était un statut de protégé, mais de protégé soumis, que connaissait le monde musulman. Les chrétiens, dominés par une autorité musulmane, pouvaient continuer à pratiquer, mais devaient payer des taxes particulières et devaient accepter un statut de soumis. Ce fut l'inverse qui se passa dans les États latins d'Orient, où évidemment une bonne partie de la population était musulmane. Donc finalement, il y a eu une crainte de la contamination et s'est posée la question de la mission. Comment essayer de faire parvenir la parole du Christ à des populations qui n'étaient pas du tout chrétiennes? Il y a donc eu une véritable réflexion sur la mission. Et d'ailleurs, la rencontre de Saint François avec le sultan à Damiette, chronique que j'ai eu l'occasion de faire voici quelques semaines, montre bien qu'il y a bien eu, dans une de ces grandes figures de la chrétienté qu'était François, une vraie réflexion sur la manière de parvenir à porter au-delà des armes et sans les armes la parole du Christ. D'autre part, c'est aussi le moment où finalement on réfléchit sur une autre manière d'approfondir la foi, de la répandre, que par la guerre. Raymond Lulle, né au Baléares en 1232, a été un représentant au XIIIe siècle et au début du XIVe siècle de cette volonté finalement de parvenir à développer une autre façon de porter la parole du Christ. En 1294, il écrivait au pape Célestin V une lettre où il lui demandait que des missionnaires ayant appris l'arabe puissent partir sur les routes de l'Orient afin de porter la parole du Christ. Il est à remarquer d'ailleurs que cette demande de Raymond Lulle a eu un début de réponse. Lors du concile de Vienne en 1311-1312, les pères conciliaires ont décidé de créer des écoles de langue orientale à Paris, Oxford, Bologne et Salamanque. Il y a également un autre élément à souligner, c'est que, avec les croisades, mais également avec les voyages importants du XIIIe siècle, dont le plus célèbre est celui de Marco Polo, la chrétienté s'aperçoit d'une chose qui l'interroge, c'est que le monde ne se résume pas à la chrétienté, ne se résume pas à cette Europe devenue progressivement chrétienne, mais il est beaucoup plus vaste, ce monde. Et ce monde n'est pas du tout chrétien. Une illusion tombe. Il y a de vastes espaces. Non seulement l'espace musulman, mais même au-delà, les espaces asiatiques que l'on découvre petit à petit. L'immense empire de Chine et les voyages de Marco Polo évoquent également les îles de Cipango, c'est-à-dire le Japon. Donc le monde se dilate au XIIIe siècle et ne va d'ailleurs pas cesser de se dilater. Or, toutes ces contrées que découvrent, racontent les voyageurs, ne sont pas chrétiennes. L'immense empire du grand Khan, de Genghis Khan, de Kubilai Khan, à la cour duquel le voyageur Marco Polo va être reçu, ne sont pas du tout chrétiens. Donc il y a une prise de conscience à ce moment-là, au-delà même des croisades, que finalement le monde n'est peut-être pas destiné à être complètement chrétien, qu'il y a une altérité qu'il faut finalement affronter. Et c'est pour cela que se pose cette question de la mission. La guerre, elle a été effectivement pendant longtemps un élément majeur de la croisade, mais finalement, la guerre a échoué. Est-ce que donc, il ne faudrait pas parcourir le monde pour répandre la parole du Christ? Et que feront d'ailleurs les jésuites au XVIe et XVIIe siècle? C'est finalement partir sur les routes de l'Asie pour rencontrer ces civilisations quasi inconnues. Donc, le bilan des croisades, vous voyez, est mitigé. Mais ne croyons pas néanmoins, à la fin du XIIIe siècle, que celles-ci, en tant qu'esprit de croisade, sont terminées. En effet, on peut estimer que jusqu'au XVIIe siècle, la défense contre les Ottomans relevait de l'esprit de croisade.